Donc on va revenir à David, et la semaine prochaine, donc ce sera la fin de Saül, ce qui fait que l'année prochaine on pourra démarrer sur directement la royauté de David. Ça sera peut-être un peu plus encourageant, parce que voilà, préparons-nous, la semaine prochaine ça va pas être très drôle. La fin de Saül, malheureusement, on va assister à ce qui se passe quand quelqu'un refuse toute sa vie, refuse d'obéir à Dieu alors qu'il avait très très bien commencé. Je vais même le citer là en exemple dans cette histoire de David, où il avait vraiment été un exemple au début de sa carrière, Saül. Donc c'est vraiment triste. Donc on en était au chapitre 29. On terminait la dernière fois le chapitre 29. J'avais juste un petite conclusion à faire, qui sert aussi d'introduction pour le chapitre 30 aujourd'hui, puisque les deux textes sont vraiment liés. Il y a maintenant des questionnaires qui ont été faits pour les groupes de maison, donc sur les chapitres 27, 28, 29 et 30. Donc si vous voulez reprendre dans les groupes de maison certaines de ces études bibliques, je te donne ça. Merci. Vous pourrez les faire ensemble, je vous conseille. Alors, c'est des questions juste pour vous aider à... Ne vous sentez pas obligé de les faire toutes. C'est surtout pour aider à un dialogue, un partage d'expérience aussi, parce que voilà, ce qui est raconté dans la Bible, c'est la vie des hommes. Et forcément, il y a des recoupements avec la nôtre, même si 25 siècles nous séparent, et plus, oui, en fait, 30 pour David. Voilà, c'est des choses que vous pouvez partager ensemble. Les questions servent de support, hein, ne vous sentez pas surtout obligé de les faire absolument. Voilà, alors à la fin du chapitre 29 de 1 Samuel, on se posait des questions particulièrement sur l'attitude de David. J'ai fait un petit résumé, parce que l'attitude de David au chapitre 29 n'est pas claire du tout. Pour gagner la faveur du roi philistin, en fait, il a rusé, il a joué d'astuce. Pour ne pas mentir effrontément, il a utilisé un double langage, ce qui n'est vraiment pas recommandé, en jouant sur les mots. Vous vous souvenez, quand il dit « mon roi », de quel roi s'agit-il ? Les ennemis de mon seigneur, il ne dit pas qui c'est. Les lieux des combats sont jamais précis. Le désert de Juda, le désert de Negev, il s'arrange. Il s'arrange, il joue sur les mots, et c'est vraiment pas recommandé. C'est là qu'on voit comment un homme comme David, qui a été l'homme selon le cœur de Dieu à bien des égards, a pu tomber assez bas pour que même sa parole ne soit pas claire. Vous savez, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin, et c'est vrai, mais maman disait toujours ça quand on était un petit peu flou. Et c'est vrai que... il faut, en tant que chrétien, il faut veiller à ce que notre parole soit digne d'être reçue. Ça, j'excuse. Merci, Alexandre. Donc, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et là, on peut dire que David n'en est vraiment pas un exemple. Il va laisser croire aux Philistins qu'il attaque son propre peuple, qu'il attaque Israël, alors qu'en fait, il attaque des tribus de pillards qui tournent dans la région, et il y en avait beaucoup à l'époque, possible qu'il y en ait encore maintenant. Il fait même semblant d'être déçu de ne pas pouvoir combattre contre Israël. Quand on lui dit « rentre chez toi », Bon, j'espère qu'il fait semblant, parce que sinon ça voudrait dire qu'il est tombé tellement bas qu'il serait prêt à combattre ses concitoyens, et ça m'étonnerait. C'est pas très cohérent avec ce qu'on connaît de lui par ailleurs, mais bon. Donc d'une certaine manière, il va se jouer du roi Achish du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment pas glorieux. Et Dieu, malgré tout, a exercé sa miséricorde et lui a évité le pire, puisqu'il va être renvoyé de l'armée. Il n'aura pas besoin de combattre contre Israël. Donc il s'est fourré dans une situation inextricable, par tout un tas de demi-vérités, etc. Et Dieu va le sortir de là. Et je trouve vraiment là, on voit la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu aurait pu dire, écoute, vraiment, tu t'es fichu du monde, tu t'es mis dans les problèmes, débrouille-toi. Non. Même quand nous, on se met dans des problèmes inextricables, il est capable de tendre sa main pour nous sortir de là. Le fait est que cette fois-là, il a obéi. Quand les Philistins ont dit « Maintenant, tu repars chez toi, on ne veut pas de toi », il est parti. Heureusement pour lui, d'ailleurs, on le verra par la suite. Il n'aura pas à se battre contre les siens. Et on peut réfléchir à ce que ça peut représenter pour nous en choisissant de vivre avec les ennemis du peuple de Dieu. David avait énormément d'avantages. Ce qui explique ce double langage et tout ce qu'il a vécu pendant 1 an et 4 mois, c'est qu'il avait la sécurité, Saül ne pouvait plus l'atteindre, la protection, la paix, vous savez c'est important, hein, quand vous avez quelqu'un qui vous poursuit sans arrêt, les biens matériels, on lui avait donné une ville entière, c'est une petite ville, hein, je pense que pour notre époque ce serait plutôt un village, mais une petite ville, des troupeaux, parce que chaque fois qu'il faisait des razzias, il ramenait la nourriture, elle était sur pattes dans ce temps-là, hein. Et des maisons, une vie confortable pour toute sa troupe. Pensez bien que s'il y avait 600 hommes, et ils étaient venus avec leur famille, donc il y avait les femmes, les enfants, ça faisait un bon village quand même, hein. Et tout ça au prix de ruses, de demi-vérités, de cachotteries, mais il avait le confort. Et comme je dis la dernière fois, pour conclure, le problème pour David, arrivé à ce point de sa vie, c'était « Qui est-ce que tu sers ? Qui es-tu vraiment ? Un Israélite ou un Philistin ? Et qui est-ce que tu sers ?» C'est la question de fond. Le pire, c'est qu'il va s'apercevoir qu'après 3 jours de marche, pour rentrer de l'armée philistine, il s'aperçoit que sa ville est brûlée, pillée. Bêtes et humains ont été emmenés captifs. Le fait est qu'on se range du côté de l'ennemi de Dieu, l'ennemi en profite pour se venger de ses pertes passées. Rappelez-vous que Israël avait souvent combattu les Amalécites, et là, les Amalécites constatent que la ville est vide, il n'y a plus d'hommes, tous les hommes sont partis à la guerre. Donc il n'a pas réalisé, David, qu'en quittant sa ville avec ses hommes et en partant se battre au nord, donc à 3 jours de marche, 3 fois 3, 9, plus d'une centaine de kilomètres, hein, il avait laissé la ville en proie à l'ennemi. Les familles n'avaient plus de protection et les Amalécites ne sont pas idiots, ils s'en sont aperçus et ils ont fait une razzia. On met nos biens et nos familles en danger chaque fois on va du mauvais côté. Le choix de vivre avec les ennemis du peuple de Dieu avait des avantages, comme je viens de dire, mais ça le rendait terriblement vulnérable aux contre-attaques et aux vengeances des autres ennemis. Le choc pour David va être violent, mais là, il va se reprendre. Il va sortir du flou spirituel dans lequel il s'était plongé. Tout était flou. Là, il va en sortir. Et il va être capable même de prendre des bonnes décisions. Et ça, c'est impressionnant. On peut dire que c'était un des points les plus bas de la vie de David. Mais peu de temps après, tout va changer. Et ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est qu'il a été vraiment infidèle à Dieu. Mais Dieu lui est resté fidèle à son alliance. Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. On est loin de l'image du Dieu vengeur qui va vous retomber dessus à la première occasion. C'est infidèle, mais lui reste fidèle. C'est impressionnant qu'il puisse rester fidèle. Après, David, quand même, il avait poussé le bouchon très loin. 1 an et 4 mois au service des ennemis jurés du peuple, c'était impensable. Après avoir tué Goliath, en plus, qui était un géant philistin. Il a été totalement infidèle dans ce domaine, mais Dieu est resté fidèle à son alliance. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais qu'on oublie, même si on est chrétien depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou depuis des générations, que Jésus a pris notre châtiment. Il est mort pour nous sur la croix. Dieu est un Dieu d'alliance. Il a fait alliance avec nous pour qu'une fois qu'on se repent, on puisse nous se relever et reprendre un chemin de victoire. Et ça, c'est vraiment le cas de David. À partir du moment où on se repent, on retourne vers Dieu, il nous remet sur un chemin de victoire. Loin des compromis, loin des arrangements humains qui nous rendent vulnérables aux attaques de l'ennemi, évidemment. Et c'était le cas de David. Dieu est fidèle. N'oublions jamais. Quand on a passé surtout par des moments difficiles, où parfois ça peut être de notre faute, parfois ça ne l'est pas, Dieu reste fidèle. Ce qu'il a fait à la croix, ça ne s'efface pas. Alors on arrive sur le chapitre 30, Donc David est renvoyé de l'armée philistine assez vertement, et même son copain, le roi Achish, insiste à la fin du chapitre 29. J'étais étonnée de cette insistance. « À présent, lève-toi de bon matin. Toi et les hommes de ton maître sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin, deux fois. » Et vous savez, quand dans la Bible, il y a une répétition, méfiez-vous, il y a un message derrière. « Et partez dès qu'il fera jour. » Oh ben non, ça ne peut pas être plus clair. « Deux fois de bon matin, dès qu'il fera jour. » David et ses hommes se levèrent de bonne heure. On se dit, mais pourquoi il insiste à ce point-là? On a compris. Et le texte biblique est formidable. Quand il y a une insistance comme ça, il y a une raison. Et on la voit juste aussitôt après. Le troisième jour, lorsque David arriva donc dans sa ville, à Tsiklag, avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Négev et à Tsiklag. Ils avaient mis à mal Tsiklag, ils y avaient mis le feu. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui y étaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, entre parenthèses, David avait été pire, lui, il avait tué quand il faisait les razzias. Mais il les avait emmenés quand ils s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville, elle était incendiée. Là aussi, il y a une insistance, une répétition, et le poids que ça représentait. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles, détaillées, avaient été emmenés captifs. Waouh, vous imaginez le choc. Ils retournent chez eux, ils ont fait à peu près 40 km par jour, sur 3 jours. On comprend qu'ils aient hâte de se reposer. Vous imaginez ? 3 jours de marche à 40 km par jour, même les bons marcheurs comme Noéla, je crois que ça ferait. Hein. On comprend qu'ils aient hâte de se reposer, de retrouver leur vie de famille, de boire et de manger normalement, parce que je ne sais pas trop comment ils se débrouillaient dans l'armée, mais il n'y avait pas l'intendance comme maintenant, hein, les petits plats tout préparés qui arrivent en camion, etc. De dormir dans un lieu paisible, mettons-nous à leur place. Quitte à attaquer encore de temps en temps, s'ils avaient besoin d'éliminer des pillards dans la région. Mais enfin, c'était la belle vie, quoi, hein. Ouh, par rapport à l'armée. Alors imaginez le choc. Ils arrivent, ils voient au loin, peut-être ça fumait encore, la ville incendiée, les femmes et les enfants sont partis, capturés. À l'époque, c'était clair, hein, c'était pratique, c'était de la marchandise. Ça apportait de l'argent, les esclaves. Et c'était des grands vendeurs d'esclaves, les Amalécites. Les troupeaux, donc le frigo, était vide. Parce que les troupeaux, le bétail, tout a été emporté, donc il n'y a rien à manger. Ils avaient grand besoin de se reposer, de boire, de manger, et c'est même plus possible. Donc vous imaginez la détresse après 3 jours de marche, sous le soleil, avec leur paquetage, j'imagine, hein, ils en avaient un aussi à l'époque. Et bien sûr, ils ont vite compris, c'était les Amalécites qui avaient fait ça. Alors peut-être c'est important de faire un petit retour... Colette nous a fait un bon petit retour sur les Amalécites. Et les Amalécites, qui c'était ? Alors, ce sont des descendants d'Ésaü. Ésaü, fils de Jacob. Bien. Abraham, Isaac, Jacob. Donc, voilà, le troisième patriarche. Il a eu 2 fils, Jacob et Ésaü. Ésaü, ah, il a mal tourné apparemment. C'était déjà un grand chasseur devant l'Éternel, hein, toujours parti. Eh bien, ses tribus, c'était ça, ils allaient partout, ils ne se sont pas vraiment installés, mais ils allaient partout et ils avaient tendance, bah, pour vivre, hein, ils n'avaient pas de chèque à la fin du mois, ils pillaient les autres, c'était des pillards. Alors, ce que Dieu avait vraiment contre ce peuple, on va le découvrir là, quand les Israélites ont quitté l'Égypte, vous vous souvenez, passage de la mer Rouge, si vous n'avez pas vu les 10 commandements ou le prince d'Égypte, regardez-le, c'est très bien fait. Ils quittent l'Égypte, c'était pas évident, hein, avec les grands-parents, les troupeaux, le matériel, ça a été un déménagement épouvantable. Et évidemment, au bout d'un certain nombre, une fois qu'ils avaient passé la mer Rouge, déjà, ça a été le choc et tout, enfin, imaginez ce qu'ils ont vécu. Et ils arrivent de l'autre côté. Enfin, et ça chante et ça danse, Dieu nous a délivrés. Oui, mais la fatigue, elle vient. La chaleur, le manque d'eau, c'est un peu difficile. Le peuple était fatigué et les Amalécites les ont vus passer. Ils se sont dit, waouh, génial. Le butin qui arrive. Évidemment, ils vivaient de ça. Donc, ils ont attendu et ce qui est terrible, c'est leur façon de procéder, les Amalécites. Ils n'ont pas attaqué le peuple qui était devant, c'est-à-dire les plus jeunes, les plus vaillants, les hommes forts, etc. Non, il a attaqué le bout de la troupe, ceux qui étaient à l'arrière, ceux qui traînaient, mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que la Bible utilise le mot traîner, mais ceux qui n'en pouvaient plus, ceux qui étaient fatigués, ceux qui marchaient lentement, ceux qui boitaient, peut-être les vieillards, les enfants, les infirmes, enfin, vous imaginez un peu cette troupe énorme, et c'est ceux-là qui ont été visés. Ils ont attaqué à Réphidim. Et vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent bien cette histoire, c'est là que Dieu a dit à Moïse, « J'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Il y aura guerre pour le Seigneur contre Amalek de génération en génération. » Nombre 14, 43. Juge 3 aussi, c'est répété. Sur ordre de Dieu, d'ailleurs, Saül va devoir combattre Amalek. Mais lui, il a gardé le meilleur du bétail, etc. Vous vous souvenez, c'était une des grosses désobéissances de Saül. L'ennemi aime attaquer l'arrière-garde. Alors, ça me fait penser à John Wimber. Je ne sais pas, je pense si certains se souviennent. Il disait toujours, la place la plus sûre, c'est devant. Et parfois, je me disais, oh, il est marrant, lui. Devant, il y a toutes les flèches, il y a tout ça. Mais le problème, c'est quand on est devant, on le sait et on se prépare. On a les boucliers pour, on a les armes de contre-offensive, etc. Par contre, derrière, on n'a pas grande protection. Et les traînards, les blessés, les soldats fatigués, c'est la proie facile pour une attaque. Et on sent dans le texte le cœur de Dieu. Vous savez, parfois, comme ça, il y a des versets qui nous montrent comment Dieu réagit. Et on sent le cœur de Dieu, il est révolté par cette attitude de profiter des plus malheureux, des plus pauvres, des plus handicapés pour attaquer. C'est horrible. C'est aussi dans cette bataille à Réphidim que, vous vous souvenez, Moïse priait pour que Josué ait la victoire. Et au bout d'un moment, ses bras fatiguaient. Et Aaron et Hur sont venus chacun d'à côté pour tenir ses bras. Parce que chaque fois qu'il baissait les bras, sans doute qu'il arrêtait de prier aussi en même temps, eh bien, ça y est, c'était les Amalécites qui gagnaient. Et alors, il essayait de garder ses bras, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, et Aaron et Hur sont venus soutenir ses bras. Et oui, on peut pas se débrouiller seul toute la vie. On a besoin de l'aide des autres. Même Moïse a eu besoin de l'aide des autres. Alors, nous. Et comme commentaire, je dirais que c'est quand on est fatigué, quand on est blessé ou quand on est malade, qu'on a encore plus besoin de prière. Parce que c'est souvent là que les ennuis se multiplient. Vous avez remarqué ? Il y a des tas de dictons là-dessus. Un ennui ne vient jamais seul, jamais 203. Des tas de dictons dans la sagesse populaire qui montrent que quand quelque chose va mal, c'est là que les problèmes s'accumulent. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils pensent que c'est les problèmes qui viennent tout seuls. Ceux qui croient en Dieu, ils savent très bien que l'ennemi va profiter de notre faiblesse, va profiter qu'on a déjà des ennuis pour en rajouter d'autres. Parce que c'est là que ça va marcher le mieux pour nous décourager. Et attention au découragement, ces gens qui traînaient à la fin, je pense, du peuple, ils devaient être un peu fatigués, peut-être découragés, peut-être ils avaient aussi des pensées négatives. Et c'est la porte ouverte, complète, dans notre cœur, hein, aux attaques. À partir du moment où on commence à penser négativement, oula, on ouvre la porte. Hein. On a vu ça avec David, hein, quand il a dit « Ouais, bon, bah de toute façon, Saül va me tuer, alors je vais me réfugier chez les ennemis ». Vous voyez ce que ça a donné, hein, ça l'a mené assez loin. Donc voilà qui étaient les Amalécites. C'était des gens vraiment horribles, profiter de la misère et de la difficulté des autres, alors que c'était quand même des cousins du peuple d'Israël. Ça fait mal. Et David, au cours de ses radias, bien sûr, il s'était souvent attaqué aux Amalécites. Et il est clair que là, il s'était vengé. Profiter. Oh, il n'y a personne dans la ville de Tsiklag. Les gars, c'est le moment d'y aller, on attaque. Ils ont bien sûr profité de l'absence des hommes qui étaient partis faire la guerre. 3 jours de marche, ils avaient largement le temps de tout prendre sans être inquiétés et de repartir avec les esclaves, ceux qu'ils allaient mettre en esclavage. David avait fait un mauvais calcul là pour un homme de guerre, franchement. Un futur roi, un homme intelligent, qui était un excellent stratège, hein, on le voit depuis quand il a eu la victoire sur Goliath. On sent que David, c'était un homme qui réfléchissait bien. Qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi il n'a pas pu réfléchir cette fois-ci? On ne laisse pas toutes les familles comme ça, dans une petite ville du désert? Bah oui, il ne réfléchissait plus très bien, parce qu'il était passé du mauvais côté. Et quand on passe du mauvais côté, notre capacité à réfléchir, nos stratégies, elles sont défaillantes. Il faut se méfier de ça. David avait fait une grosse bourde en laissant la ville sans défense. Alors pourquoi ? Moi, je pense que quelque part, David avait une fausse sécurité. Il se sentait tellement à l'abri dans une ville des Philistins. Chez les Philistins, il n'y avait plus Saül. Il s'était tellement focalisé, en fait, sur les attaques de Saül, il ne pensait plus au reste. Puis bon, lors de ses radias, il avait la victoire partout où il allait. Quelles que soient les tribus de pillards qu'il attaquait, il collectionnait les victoires. C'est pour ça qu'Akish l'aimait bien aussi. Le roi philistin était content de lui, hein. Il revenait toujours avec du butin, il gagnait. Donc finalement, il s'était installé dans une fausse sécurité. Attention à la fausse sécurité. La sœur qui dirigeait l'aumônerie à l'école catholique où étaient mes enfants, où sont aussi mes petits-enfants d'ailleurs, elle nous racontait toujours que... Elle était prof de maths, en fait, dans le civil. Elle nous racontait, quand elle avait passé son bac, elle était tellement sûre d'elle, fausse sécurité, qu'elle a à peine révisé ses maths. De toute façon, elle était tellement bonne en maths, c'était pas un problème. Et elle était sûre, mais sûre à 100%. Et puis elle a dit, là, Dieu m'a appris quelque chose. Je me suis cassé la figure sur le problème de maths, comme ça ne m'était jamais arrivé. Eh oui, on peut être défaillant parfois. La fausse sécurité, c'est dangereux. S'en est sorti quand même, hein, Dieu est bon, mais ça l'a marqué pour la vie. Et attention à la fausse sécurité. Notre vraie sécurité, elle est en Dieu. On ne peut pas trop compter sur nous-mêmes, ni sur les autres. On peut avoir ce sentiment de sécurité, et là, il est d'autant plus dangereux quand on désobéit à Dieu. Et qu'on se dit, ah, mais de toute façon, je suis une exception. Je peux faire ça, même si ce n'est pas bien. Mais moi, je suis une exception. Pour moi, c'est toléré. Alors que dans la Bible, ça marche à l'inverse. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui me titille souvent, je crois, où la Bible dit « À toi, Dieu ne le permet pas ». Et parfois, quand vous savez, dans la vie, on pense à certaines choses, et puis il y a ce verset qui me vient « À toi, Dieu ne le permet pas ». C'est l'inverse. Il ne faut pas croire qu'on est une exception pour faire du mal. On est une exception parfois, pour ne pas le faire. Dieu va peut-être le tolérer chez certaines personnes, mais à toi, Dieu ne le permet pas. À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Attention. Donc cette fausse sécurité qui dit « Oh, je suis une exception, je peux faire », et surtout la fausse sécurité, c'est « Je me sens bien ». Et on va vous dire « Mais oui, mais là, tu désobéis à Dieu. Oui, mais moi, je me sens bien. » Mais vous savez, ce qu'on ressent, ça ne suffit pas. On peut se sentir très bien quand on fait une grosse bêtise. Normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais ça peut arriver. Et là, je pense que David, il devait se sentir tellement bien, tellement en sécurité que, allez, on part, on fait la guerre, on rentre. Et puis toutes les familles. Il y avait des problèmes, parce que Tsiklag, c'était un cadeau d'alliance de la part des ennemis du peuple de Dieu. Et David attaquait, non pas pour obéir à Dieu, là, en faisant la guerre avec les Philistins, mais pour faire plaisir au roi Akish, pour garder sa sécurité chez les Philistins. Il était parti avec les Philistins pour se battre contre le peuple de Dieu, aïe aïe aïe, même s'il ne l'avait pas fait, c'était franchement pas sa place de se joindre à eux. Autant dire qu'il avait ouvert des portes à l'ennemi. Et si on considère ce verset que j'aime beaucoup et qui dit « Tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir », c'est Paul qui dit ça aux Corinthiens à propos de l'Ancien Testament, donc de la première partie de la Bible. Tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. C'est pour ça qu'on passe du temps sur les textes de l'Ancien Testament pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, dans notre vie d'aujourd'hui. Ce sont des exemples. Alors, ne pas faire comme David. Ne pas s'engager dans des combats qui ne sont pas ceux que Dieu voudrait pour nous. Alors ça, c'est pas toujours facile, parce qu'il peut y avoir d'excellentes causes. On ne va pas tous aller se battre avec les Philistins. Par contre, il y a des bonnes causes. Mais est-ce que c'est le chemin de Dieu pour moi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et surtout, en s'engageant dans ces combats-là, négliger sa famille et laisser sa famille devenir la proie de l'ennemi. Attention. Et alors, si vous aimez comme nous les films de Walt Disney, surtout les vieux films, combien de fois dans les films de Walt Disney, vous voyez le père et la mère qui sont tellement pris par leur boulot qu'ils ne vont pas au spectacle des enfants, ils ne vont pas au match de baseball, ils ne vont pas, etc. Je pense que vous savez de quoi je parle si vous avez vu des films de Walt Disney. Mais il a raison quelque part. On peut être tellement pris par des bonnes choses qu'on va négliger sa famille. Et qu'on n'est pas mieux que David, qui va se joindre aux Philistins et qui laisse sa famille à tout vent. De même, si on sert le Seigneur, il est hors de question d'abandonner sa famille et surtout ses enfants. Parce que parfois, bon, le couple s'associe pour travailler, mais les enfants. C'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière, et je le répète, d'associer les enfants à nos moments de prière, d'associer nos enfants à nos soucis, en gardant toute proportion gardée, bien sûr, pas les affoler. Mais je pense qu'à partir du moment où les enfants sont associés à nos soucis, peuvent prier avec nous, ils n'ont pas le même regard sur l'absence de papa ou maman qui servent le Seigneur. J'ai constaté que les enfants de pasteurs ou de missionnaires, et là vous en connaissez, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas eu la vie drôle, monsieur et madame Verneau. Vous avez connu les Friedman. Madame Friedman est fille de missionnaire et petite-fille de missionnaire. Ils en ont vu de toutes sortes en Afrique. Ils ont risqué leur vie plusieurs fois. Et je ne pense pas que madame Friedman soit du genre à pleurer sur son enfance. Au contraire. Je l'ai entendue en parler avec beaucoup de joie et considérer l'Afrique comme son pays. Pourquoi elle était capable de faire ça ? Parce que elle a été associée au ministère de ses parents. Elle a prié avec eux. Parce qu'elle n'a pas été mise de côté. Et elle fait partie des contre-exemples de ce qu'on avait vu la dernière fois où cette jeune femme avait dit, en tant que fille de pasteur, elle avait tout rejeté parce que, wow, elle ne voyait jamais son père. Madame Friedman n'avait pas du tout cette réaction. Et en plus, j'ai eu la chance d'être invitée chez eux où elle était avec ses parents. Parents que j'avais connus quand ils étaient tout jeunes. Qu'est-ce qu'on vieillit ? Et on sentait cette complicité encore, alors qu'ils avaient près de 80 ans, je pense, hein, quand ils sont venus la dernière fois, il est venu prêcher ici. Il devait avoir 80 ans, monsieur Verneau, je pense. Peut-être plus. Donc voilà, et ça je vous le dis parce qu'on connaît les mauvais exemples, mais il y a des bons exemples. Et il y avait une grande complicité entre eux, et ça n'a pas détourné madame Friedman de l'évangile. Hein, et je pense que c'est un bon exemple, parce qu'ils en ont vécu des durs, que la plupart des couples pastoraux français n'ont pas vécu. Mais ils ont été associés aux difficultés de leurs parents. Ils ont prié avec leurs parents. C'est merveilleux, je crois que c'est un bon exemple. Le problème, c'est que parfois, les parents partagent avec les enfants, mais partagent pas forcément de la bonne manière. Vous savez, si on dit aux enfants, les chrétiens de l'Église, ils sont nuls, ils sont horribles, ils sont insupportables. Non, les pasteurs ne pensent jamais ça, bien sûr. Mais si on transmet tout un tas d'amertume, c'est sûr qu'on va les détourner de la foi. Mais si on se contente de dire « on souffre, on a des difficultés, mais on va prier le Seigneur, il va nous sortir de là », ça change. Hein. Je pense que c'est, il y a aussi ça, de faire attention de ne pas partager l'amertume, la colère, mais partager juste les sujets de prière avec les enfants. Et c'est vrai, pas seulement pour ça, mais c'est vrai aussi, si vous avez des soucis au boulot et que vous rentrez du boulot en disant « mon chef est le dernier des imbéciles, c'est un abruti, je ne le supporte pas, on va prier », il y a des chances pour que vos enfants, quand ils vont avoir un chef, ils vont faire un transfert et tous les chefs vont être des abrutis. Voilà. Donc, attention à la façon dont on partage. Quand on partage, c'est pour s'attendre à Dieu avec les enfants. C'est pas pour casser du sucre sur le dos de nos ennemis, qui peuvent être de réels ennemis, qui peuvent être vraiment empoisonnants, qui peuvent être vraiment méchants. Mais on va pas transmettre ça aux enfants. On va transmettre que dans les difficultés, Dieu est celui qui nous tend la main et qui nous sort d'affaires. Je voulais préciser ça parce que c'est important dans ce qu'on transmet à notre jeunesse. Par ailleurs, quand on partage avec les enfants peuvent être très inspirés pour nous reprendre ou nous exhorter. Oh, là, je vais peut-être heurter certaines cultures, mais j'ai eu une discussion une fois avec une Antillaise qui me disait « Oh, les jeunes, quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit à la parole, etc. » Je dis « C'est vrai, c'est dommage. » Mais je crois que les enfants, parfois, ont des paroles de sagesse pour nous. Imaginez. Vous entendez, les enfants ? Essayez d'avoir des paroles de sagesse pour vos parents, ça leur fera le plus grand bien. Parce que c'est vrai, nous, on l'a vécu, hein, dans des moments où ça ne va pas, etc. Ils ont juste la parole qu'il faut. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte, mais c'est bien. Donc, écoutez, les enfants, parfois, ils auront des paroles de sagesse. Dans un partage avec eux, même tout jeune, même tout petit, ils peuvent avoir un mot tout simple, du style « Mais tu sais que le Seigneur n'abandonne jamais, tu me l'as dit. Et pourquoi tu te fais tant de soucis ? Mais prie donc au lieu de rouspéter. » Les enfants disent des choses très sages parfois. Voilà. Pas tout le temps, les jeunes, là, croyez pas quand même. Que, hein. Bon. Donc, en conclusion, il y a un juste milieu à rechercher avec le Seigneur. Et c'est pas en renonçant à la famille qu'on va mieux servir le Seigneur. Et c'est pas non plus en renonçant au service pour Dieu qu'on va mieux servir la famille, au contraire. Je pense qu'il y a un juste milieu à rechercher pour tous les gens qui veulent servir le Seigneur, que ce soit dans n'importe quel rôle de l'Église, il n'y a pas que les pasteurs, il y a tous les gens qui servent le Seigneur dans leur vie quotidienne. Hein, c'est important. Ceci étant, notre époque est un petit peu difficile, parce que entre les consoles, Netflix, voilà, c'est peut-être un petit peu difficile de trouver du temps pour les enfants. Et je me souviens d'une fois, quelqu'un qui nous avait dit « Oh là là, l'Église nous prend tellement de temps ». Et on avait dit bah, « Pendant un mois », heureusement, c'est des gens très honnêtes, on a dit « Pendant un mois, vous allez écrire à quoi vous consacrez votre temps ». Un mois, c'est quand même important. Hein. À quoi vous consacrez votre temps ? Donc, les courses, le travail, hein, l'Église. Et vous allez faire le calcul du pourcentage pour l'Église. Et vous allez voir si c'est vraiment l'Église qui vous prend beaucoup de temps. Je ne vous dis pas. Ils en ont bien rigolé après, parce qu'effectivement, l'impression qu'ils avaient, comme quoi notre ressenti est important, hein, l'impression qu'ils avaient, c'est que l'Église leur bouffait un temps fou. Et quand ils ont fait le calcul, je ne sais plus le pourcentage. 5, mais c'était pas 10. Vous vous rendez compte comment l'ennemi peut tordre notre pensée. Voilà. Alors, encore un dernier commentaire sur les Amalécites. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, dit la Bible, cherchant qui il va dévorer. Et je fais souvent cette comparaison hein, avec les troupeaux d'animaux en Afrique. Et on voit les lions qui tournent et ils cherchent l'animal blessé, l'animal qui traîne, le vieux ou le tout petit. Les Amalécites ont attaqué le peuple, c'est vrai, quand il était épuisé à la sortie d'Égypte. Et aussi, une chose que j'ai remarquée, ils venaient de vivre une grande victoire. Et j'ai remarqué que souvent, quand on a vécu une grande victoire, on est content, un exaucement de prière qu'on attend depuis longtemps, et le Seigneur a fait un miracle. Ah, souvent, l'ennemi cherche à détruire ça. Hein. Donc, c'est un moment où il faut prier, il ne faut pas se relâcher. D'ailleurs, c'est ça qui est difficile dans la vie chrétienne. Il ne faut jamais se relâcher. Ah. J'aimerais bien qu'on puisse vivre cool, quoi. Mais non, il ne faut jamais se relâcher. L'ennemi attaque, rappelons-nous encore, quand on se sent faible, quand on est fatigué, quand on est fragilisé par un autre combat, maladie ou autre. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos malades, pas seulement pour le côté physique. Mais l'ennemi profite de ces temps-là, quand on est découragé, et surtout quand on n'a plus envie de prier. Parce que alors là, on est des proies faciles. Donc, efforçons-nous de prier, prier, prier. Et voilà le commentaire de Deutéronome 25, où Dieu dit « Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait en chemin, lorsque vous êtes sorti d'Égypte. Comment il est venu à ta rencontre, en chemin, pour attaquer ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient en dernier, alors que tu étais fatigué, épuisé, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. » C'est le problème de fond. Quand on craint pas Dieu, on peut redouter le pire. Mais voyez le cœur de Dieu, là, dans ce verset ? Quand il dit « Il est venu » pour attaquer ton arrière-garde, ceux qui se traînaient, tu étais fatigué, épuisé. Dieu sait quand on est fatigué, Dieu sait quand on est épuisé. Et ça le met dans une sainte colère quand il voit l'ennemi nous attaquer, quand on est vraiment des traînards, épuisés, au bout du troupeau. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de jugement, hein, entre parenthèses. Il n'y a pas de jugement pour les traînards. Donc, ce n'est pas une justification pour traîner. Hein. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de jugement chez Dieu. Tu te traînes à l'arrière-garde, tu te sens complètement épuisé. Alors, oh, le Seigneur ne doit plus m'aimer. Mais si, justement, il a les yeux sur toi. Tu ne te sens pas bien, tu te sens... Mais il a les yeux sur toi. Et il est furieux quand l'ennemi t'attaque. Parce que, justement, tu es à la traîne. Et voyez, la colère de Dieu, on le sent, là. Comment il est venu à ta rencontre pour attaquer ton arrière-garde, ceux qui se traînaient en dernier, alors que tu étais fatigué, épuisé. Là, on voit l'amour de Dieu. Pas de jugement. Donc si un jour vous dites « Oh là là, je ne suis pas un bon chrétien, je me traîne, j'en peux plus », dites-vous que Dieu a les yeux sur vous et il ne vous juge absolument pas. Et il est furieux si l'ennemi vous attaque. Par contre, il attend que vous priez. Ah là là, ça on en a déjà parlé. Alors, la réaction des hommes. Maintenant, on se remet dans la peau de nos soldats qui rentrent après donc 3 jours de marche, qui voient ce spectacle épouvantable. Toute leur fausse sécurité qui s'écroule, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Eh bien, là non plus, il n'y a pas de jugement. Je pense qu'on a affaire à un peuple où les hommes savent pleurer. Eh bien, ce n'est pas un défaut. Je dirais même parfois c'est une qualité, parce qu'au lieu de tout stocker et de se faire un ulcère à l'estomac, parfois il faut mieux crier et pleurer. Les médecins vous le diront. Stocker, stocker, messieurs. Et puis après, les problèmes digestifs, problèmes cardiaques, etc. Demandez à votre médecin, il vous expliquera, mais stocker, ce n'est pas la solution. Je pense qu'ils ont eu la bonne réaction, ils ont exprimé leur émotion. Alors, on le fait à la maison d'Élie, hein. On exprime ses émotions. Alors, il y en a pour qui ça a été interdit, hein, je pense aux British en particulier. Et oui, un garçon ne doit pas pleurer, hein, même si on le colle en pensionnat à 5 ans. Vous imaginez le traumatisme. Jusqu'à Noël, on ne le revoit pas. À l'époque, oui. Traumatisme. Et il ne fallait pas pleurer, parce qu'on était des hommes. La Bible n'est pas du tout comme ça. Elle n'est pas inconsciente de nos émotions. C'est ça que j'aime bien dans la parole de Dieu. Elle est adaptée à notre humanité. C'est Dieu qui nous a créés. Il a créé les larmes sont thérapeutiques. Donc, si vous avez envie de pleurer, eh bien pleurez. Moi, je me souviens quand mon père est décédé, je disais à ma mère, mais pleure, ne j'arrive plus. Bah oui, parce que c'était une génération où on disait, bah pleure pas, hein, c'est le truc, ne pleure pas. Non, pleurez parce que c'est thérapeutique, parce qu'on en a besoin, on a besoin de faire son deuil. Vous vous souvenez de la leçon de la maison d'Élie, pour ceux qui l'ont fait. Pleurez parce qu'il ne faut pas stocker. On n'est pas fait pour stocker la douleur. Et je pense qu'ils ont eu la bonne réaction. Le peuple a sangloté jusqu'à ce qu'il puisse plus verser une larme. Et je pense que souvent, les gens se rendent malades et font des dépressions, pas toujours, hein, mais souvent parce qu'ils refusent de pleurer. Et pleurer devant le Seigneur, regardez David, il ne s'est pas gêné. Hein. Dans les psaumes, on sent qu'il en a versé des larmes. Il dit même à maman, Seigneur, tu recueilles mes larmes. Oh, c'est précieux les larmes. Voilà, les deux femmes de David, hélas, il en avait deux, avaient été emmenées captives, on connaît l'histoire. Et David fut dans une grande détresse. Alors bon, tout ça, ça se comprend. Mais là, on a un autre problème. David est dans une grande détresse, pas seulement à cause de ça, mais lui, il avait un problème en plus des autres, car le peuple parlait de le lapider, donc le tuer à coups de pierre. Eh bien, la bonne idée. Parce que tous étaient amers, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Alors, pleurer, c'est OK. Lapider David, c'est pas OK. Là, il y avait un souci. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient lapider David? Parce qu'ils étaient malheureux. Ils disent bien car ils étaient amers. Alors, ils sont humains, ces hommes, ils sont naturels, ils sont ce qu'on appelle charnels, c'est-à-dire humains et naturels. Eh bien, ils cherchent un coupable, et ça, c'est notre humanité. Quand quelque chose ne va pas, où est le coupable? C'est la faute à qui? C'est jamais moi, en général. Donc, il faut trouver un bouc émissaire. Et bien sûr, c'est la faute de David. Il faut le tuer. Ils avaient suivi un homme faillible, pas le Seigneur. Et quand on suit un homme, et ça, c'est ça qui est dangereux, partout, que ce soit dans des associations, au travail, quand on suit un homme, mais pas le Seigneur, on est fatalement un jour déçu, et un jour on a envie de le faire descendre de son piédestal et de le liquider. C'est pas la bonne solution. Mais c'est quand même... Et quelque part, ils n'avaient pas tort. Pourquoi ? David, en bon leader, on l'a dit tout à l'heure, il n'aurait jamais dû laisser la ville sans garde. Mais il était trop préoccupé par son choix. Je vais me battre contre les miens ou je ne vais pas me battre ? Je vais trahir les Philistins ou je vais trahir mon peuple ? Il avait un choix assez difficile. Corneille aurait dû faire une pièce là-dessus. Il aurait dû s'attendre à une vengeance des Amalécites. Il connaissait le caractère de ces pillards. Il avait fait des razzias chez eux. Un jour ou l'autre, ils allaient se venger. En bon guerrier, il aurait dû y penser. Et surtout, il n'avait pas recherché le Seigneur pour savoir si c'était sa place de s'associer aux Philistins. Donc, quelque part, il avait pas mal de choses fausses, hein, au moins trois choses qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas faites. Donc, quelque part, ils avaient raison. Toi, le leader, là, tu nous as plantés. Regarde où on en est à cause de toi. C'est pas entièrement faux. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont accompagné David sans jamais le conseiller pendant plusieurs mois. Ils n'ont jamais dit, comme vous vous souvenez, j'ai trop avec Moïse. qui a dit à Moïse, écoute, mon grand, tu en fais trop, là, il faut que tu aies des hommes pour t'aider. Non, non, il disait rien. Oh, David, David, on te suit, oui. Puis le jour où ça va mal, on te tue. Donc ils étaient trop contents d'être en sécurité loin de Saül aussi. Il faut y penser, ils avaient leur famille, ils étaient heureux, hein. Ils étaient heureux aussi. Ils avaient leur ville, leur famille, que de plus. Une petite bagarre de temps en temps, c'était des guerriers. Hein. Donc une petite bagarre de temps en temps, ça fait du bien. Donc on était heureux avec David, quand tout allait bien. Mais ils n'ont jamais été vraiment de bons conseils envers lui. Rappelez-vous, quand il a voulu montrer à Saül qu'il ne voulait pas le tuer, mais qu'il voulait juste lui montrer qu'il aurait pu, mais qu'il ne voulait pas y toucher, qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Tue-le ! Vas-y, c'est l'occasion ! Le Seigneur te le livre ! On parlait des bons conseils. Ce n'était pas du tout ce que David cherchait à faire. Ils ont visiblement profité des razzias aussi, hein, le butin, tout ça. Ils n'ont jamais cherché à retenir David en lui disant, tu sais, là, t'en fais peut-être un petit peu trop, un jour ou l'autre, ils vont se venger. Ils n'étaient pas idiots, hein, ils avaient un cerveau comme tout le monde. Mais ils aimaient ce style de vie. Hein. Moi, je pense qu'ils devaient être assez ravis, hein, puisqu'ils sont restés avec lui, ils n'étaient pas obligés. Aussi longtemps que David était vainqueur. Et vous voyez ça dans les entreprises aussi, hein, aussi longtemps que le patron, il fait marcher l'entreprise et que tout le monde bien, reçoit bien son salaire et tout, ça va. Le jour où ça ne va plus, même si ce n'est pas la faute du patron. Et c'est les actionnaires qui les font sauter en général, c'est ça, hein, voilà. Il ne rapporte plus autant, ça ne continue pas à grimper, comme si ça devait grimper toujours. Moi, je n'ai jamais compris ça, mais bon. Pourvu que ça marche, moi, bon, mais j'ai vraiment pas le sens de l'économie. Et donc voilà, tant que ça marche, tant que ça grimpe, c'est bon, le jour où ça stationnaire, ça stagne, allez, on le vire, on prend un autre PDG. C'est tout ce que je comprends, je ne peux pas vous en dire plus. Mais voilà, c'est la vie, c'est la société. Hein. Et quelque part, c'est la tendance humaine. Après avoir été adjoint au maire pendant 25 ans, je peux vous dire que quand il y a un orage, s'il y a un arbre qui tombe, c'est la faute du maire. S'il y a... Ah si, j'ai découvert tout ça pendant 25 ans. S'il y a un trou sur un trottoir et que quelqu'un se tord la cheville, ou bien c'était un autre problème animé, c'était des barrières de protection qui avaient un peu bougé et la personne est tombée, s'est blessée, et bien c'est la faute du maire. Non, mais c'est ahurissant à quel point tout est la faute des gens qui ont la responsabilité. Alors bien sûr, on peut comprendre juridiquement, mais franchement, les inondations, c'est la faute du maire. Ça, alors là, on en a eu dans le bureau des tas de gens parce que leur cave avait été inondée. C'est la faute du maire. Oui, il y a des maires qui n'en peuvent plus. Hein. C'est pour ça qu'on a du mal à en trouver. Ça se comprend. Hein. Les refus de permis qui dépendent absolument pas de nous, c'est la faute du maire. Je me souviens d'un certain feu rouge aussi qui a fait un procès. C'était la faute du maire. Enfin, on arrive à des extrémités. Quand quelque chose ne va pas, il faut trouver un bouc émissaire. Alors, c'est le patron, c'est les parents. Ah ! Je suis sûre que les ados, ils connaissent ça. C'est la faute des parents. Parfois, c'est vrai. Mais pas toujours. Bon, ça va, pas toujours. Hein, c'est vrai. C'est la faute des parents. C'est la faute des profs aussi. Hein, ah là là, je crois que j'ai l'approbation là. Quand on a un 4 à un devoir, c'est forcément la faute du prof. Les profs qui sont là approuvent, tristement, ils opinent du bonnet. Voilà. Puis dans l'église, bien sûr, c'est la faute du pasteur. Ça, c'est bien. Pas sa femme. Hein. Mais c'est pas... Bon. Alors, ils voulaient le lapider. Ils étaient amers à cause de leurs enfants. Et on les comprend. Hein. Mais qu'est-ce que ça leur a donné, franchement, de tuer David à coups de pierre ? Qu'est-ce qu'ils auraient fait après ? Ils n'avaient plus de leader. Ils n'avaient plus de sécurité. Ils n'avaient toujours pas d'enfants et de femmes. Donc, attention à ce qu'on fait quand on cherche un bouc émissaire. On peut aggraver sa situation. On l'aggrave même certainement. David fut dans une grande détresse. Et on aime le verset suivant parce que c'est le verset, on devrait le faire nôtre. David trouva sa force dans le Seigneur, son Dieu. J'aime bien le « son Dieu ». Il est notre Dieu à chacun. C'est pas le Dieu d'Israël. C'est pas l'éternel Dieu, c'est son Dieu. Son Dieu. Vous savez, j'avais énormément aimé l'intervention de l'archéologue anglais qui était venu il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souvenez. Et, Et c'était aussi dans la bouche du théologien Blocher de dire « Mon Seigneur, mon Dieu ». Vous voyez, des gens de cette envergure qui ont l'humilité, de dire, quand ils parlent de Dieu, de dire « Mon Seigneur, mon Dieu ». Ah, ça fait du bien. C'est un Dieu personnel. Et c'est là qu'il va trouver sa force, le pauvre. Et là, il en avait vraiment besoin. Et là, on retrouve David dans son bon sens. Il va consulter Dieu. C'est fini, les « je me suis dit, Saül va m'attaquer, alors je vais joindre les ennemis ». C'est fini, tous ces raisonnements tordus, là. Là, maintenant, il sait ce qu'il faut faire. Peut-être parce qu'il est aux portes de la mort, ça peut se comprendre. Et il ne va pas rester dans la détresse. Et c'est ça, c'est important aussi. Il ne va pas rester dans la détresse. On a le choix, parfois, de rester dans notre tristesse. Puis parfois, on a l'impression que ça fait du bien. Vous savez, c'est comme les boutons de moustique. Moi, j'ai une fâcheuse tendance. Je sais qu'il y en a d'autres aussi. Si j'ai un bouton de moustique, je vais le gratter jusqu'à ce qu'il saigne. Ce n'est pas intelligent, je suis d'accord. Ce n'est pas bien du tout. Mais je le fais quand même. Personne n'est parfait. Et parfois, on aime bien rester dans sa tristesse. C'est romantique. Mais bon, attention. On n'est pas fait pour rester dans la détresse. Alors, se tourner vers le Seigneur, notre Dieu. C'est bien la démarche qui va nous redonner du courage et de la lucidité. David, on a vu, il a retrouvé son identité, le roi choisi par Dieu. Il n'appartient pas aux Philistins, il appartient au peuple d'Israël. Et c'est donc Dieu qui va consulter. Et là, dans nos problèmes personnels, qu'on soit adulte ou adolescent, on fait face à des situations difficiles. Et souvent, faites attention. Les adultes, j'allais dire les vieux, mais je ne me permettrai pas. Les adultes, faites attention, les enfants vivent des situations difficiles. Les adolescents vivent des situations difficiles. Vous dites, oh, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont solides. Ils vivent des situations difficiles et on ne s'imagine pas parfois. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'ai un petit coin de mon cœur qui est resté jeune ? Peut-être. Mais... c'est pas facile la vie d'un ado, et encore moins aujourd'hui. Et ça sera encore plus difficile à la génération suivante. Pensez-y. Quand on a envie de les secouer, de les assommer, de les gronder, attention, leur vie n'est pas si facile que ça. On ne peut pas forcément se mettre à leur place, mais c'est pas facile. Et quand on se retrouve devant des problèmes, des situations difficiles, soit avec les profs ou avec les parents, il faut les supporter, les parents. Hein. Pas toujours évident. Eh oui, c'est comme ça que Dieu a créé la famille, hein, pour nous apprendre les relations humaines. Et ça ne s'apprend pas tout seul, il y a forcément des difficultés. Les leaders en tout genre, qu'ils soient profs. Alors, dans tous ces problèmes personnels, il y a deux solutions. Ou alors je fais semblant que ça ne me fait rien, j'intériorise, puis je râle derrière, parce qu'on est français. En bon français, il faut qu'on râle quand même. Hein. Mais derrière, c'est un peu de l'hypocrisie. Ou alors je vais me défendre avec violence et je vais rentrer à l'agressivité. Vous avez vu le témoignage de cette jeune femme là qu'on a entendu la dernière fois. Mais la clé, c'est ni l'un ni l'autre, c'est de se tourner vers le Seigneur, de trouver sa force et son énergie dans le Seigneur et aussi de chercher auprès de lui quelle action on va prendre. David est un homme de guerre, mais il a compris, peut-être à cause de sa fatigue et de la détresse, que ça ne sert à rien de poursuivre l'ennemi si Dieu ne l'accompagne pas. Ça ne sert à rien de rentrer dans une agressivité si ce n'est pas la volonté de Dieu, si c'est pas, s'il n'y a pas d'espoir de rattraper, de récupérer ce qui lui a été volé. Et vous allez voir comment il s'y prend. À l'époque, on appelait le prêtre avec l'éphod, qui était un moyen de questionner Dieu. Je ne rentre pas trop là-dedans, personne ne sait exactement comment ça fonctionnait. Il dit à Abiathar, qui était le prêtre, fils d'Ahimélec, le prêtre, « Apporte-moi l'éphod, je te prie. » Abiathar apporta l'éphod à David. David interrogea le Seigneur. « Si je poursuis cette troupe, la rattraperai-je ? » Vous voyez, il y a le guerrier là derrière, il est déjà dans la poursuite, lui, hein, dans sa tête. Il lui répondit, « Poursuis, tu rattraperas et tu reprendras. » David se mit en marche. Vous voyez, il ne s'est pas mis en marche tant qu'il n'a pas été sûr que Dieu était avec lui. Ah, il a changé là, hein ? C'est plus « aller, je me réfugie chez les Philistins. » C'est « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Et souvent, on ne prend pas le temps, quand on est dans la détresse, de dire « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et je sais qu'il y en a parmi nous aujourd'hui qui ont des situations de détresse. Et je pense, prenez l'exemple de David. C'était une situation assez insoluble. Il aurait pu ne pas récupérer ses biens. Il aurait pu ne pas récupérer sa famille. Mais il est allé vers le Seigneur. Il risquait la lapidation, ce n'était pas drôle. Mais Dieu était avec lui. Il s'est adressé à l'Éternel, son Dieu. Dieu va confirmer qu'ils doivent rattraper leurs ennemis et qu'ils réussiront. Sur cette parole, il se met en marche avec ses 600 hommes. Et là, survient une autre épreuve. Ils arrivèrent à l'oued Bessor. Alors, si j'ai bien compris, un oued, c'est un petit cours d'eau qui peut se remplir au cours des orages et devenir dangereux d'ailleurs, ou qui peut rester un petit cours d'eau. Mais c'est quand même un cours d'eau dans ces pays chauds. Ouh, c'est appréciable, hein. Ils arrivèrent à l'oued Bessor où s'est arrêté ce qui était resté en arrière. Toujours, hein, ceux qui sont restés en arrière. David mena la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer le Bessor. Ah, il n'y a pas de commentaire. Trop fatigués. Alors, trop fatigués, ils s'arrêtent au bord du cours d'eau. Attention, ça signifie un tiers des hommes en moins pour aller attaquer les Amalécites qui étaient plus nombreux. Alors, la Bible ne dit pas trop. Fatigue, peur, âge, découragement, manque de foi. On ne peut pas s'empêcher de penser à Gédéon. Vous vous rappelez quand Gédéon, il vient avec un certain nombre de soldats, je n'ai pas vérifié les chiffres, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais et puis Dieu diminue jusqu'à 300, je crois. C'est quelque chose comme ça, hein, ça. Donc c'est quand même terrible pour aller faire la guerre de diminuer les forces. C'est comme si Dieu diminue les forces actives pour nous envoyer au combat. Mais quand je suis faible, c'est là que je vais être le plus fort avec le Seigneur. Mais franchement, c'est dur à vivre. Moi, je compatis vraiment avec David, là. Un tiers de personnes en moins. Bon, mais Dieu n'est jamais impressionné par le nombre. Apparemment, David non plus. Apparemment, ça... il ne dit pas, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Apparemment, ça ne l'a pas touché, parce qu'il sait que là, il ne va pas gagner à cause de sa stratégie, mais il va gagner à cause du fait que c'est Dieu qui l'envoie. Et ça, c'est autre chose, hein. Donc, le nombre, ce n'est pas le problème. On peut avoir une immense église. On peut avoir une toute petite église. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on allait souvent avec mes parents dans une église à Grand-Couronne. Le pasteur avait perdu une jambe à la guerre. C'était un homme de santé très fragile. Et c'était une petite église qui n'a jamais dépassé la trentaine. Mais il est sorti 4 ou 5 pasteurs de cette église. Et qui, aujourd'hui, sont encore en service, pour une grande partie d'entre eux. Et qui ont amené des dizaines et des dizaines de gens au Seigneur. Mais cet homme n'a jamais eu la joie de voir. Mais il a servi fidèlement jusqu'au bout, avec ses 30 fidèles. Des gens qui ont été extrêmement fidèles et qui le sont encore aujourd'hui. Voilà. Donc le nombre, ce n'est pas le problème pour Dieu. Le nombre, ce n'est pas le problème. Je crois que David était tellement focalisé sur la poursuite qu'il n'en a pas fait cas. Il ne cherche même pas à les persuader. « Allez, les gars, reprenez courage, je suis... » Non. Il les respecte. Et il continue, il persévère avec ceux qui veulent bien l'accompagner. Et je crois que c'est important, nous, en tant que chrétiens, de respecter quand les gens sont fatigués, quand les gens sont... Et on n'y pense pas toujours. On a envie de les encourager. « Allez, vas-y, fonce, on va y aller. Allez, allez, il ne faut pas perdre courage. » Il y a parfois des temps pour se reposer. Il ne faut pas que ça devienne définitif, mais... il peut y avoir des temps. Et bon, ils traversent le cours d'eau. Et puis, là, après cette épreuve, le Seigneur va enfin donner un premier indice. Moi, je vois ça un petit peu, vous savez, les jeunes, comme les... comment c'est les jeux, là, maintenant Escape Game, hein, où il y a des indices, c'est ça? Voilà. Vous voyez, hein, je suis au courant quand même, hein, je n'ai pas l'air comme ça. Et donc, ça va être un peu comme un jeu de piste. Comme par hasard, ils rencontrent sur leur route un esclave égyptien. Et là, ils auraient pu avoir la mauvaise attitude. Oh, Dieu les en a gardés. Qui tu es? Ah ben, j'étais avec les Philistins, j'ai brûlé de Siclag, il dit. Il ose dire ça, le pauvre. Il aurait pu se faire tuer. Oh oui, pardon, j'étais avec les Amalécites et j'ai brûlé de Siclag. Moi, je pense que les hommes qui ont perdu leur famille, ils ont dû avoir une sacrée maîtrise de soi pour ne pas le mettre en pièces. Surtout qu'ils... c'était pas difficile, il était à moitié mourant. Mais ils ont eu la sagesse. Alors, je sais pas, vraiment, c'est une grâce de Dieu. Ils trouvèrent dans la campagne un Égyptien qui conduisirent à David. Ils lui donnèrent à manger, à boire. Ils lui donnèrent du gâteau de figues sèches et 2 gâteaux de raisins secs. En plus, il y a tous les détails. Il n'y a pas la recette, mais on n'en est pas loin. Quand il eut mangé, son souffle lui revint. Il n'avait ni mangé ni bu depuis 3 jours et 3 nuits. Ça nous donne une idée du temps. Hein. Il n'avait, David lui dit, qui es-tu? D'où es-tu? Il répondit, je suis un jeune Égyptien, esclave d'un Amalécite. Il y a 3 jours, mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une incursion dans le Négev des Kérétites, une zone désertique, le territoire de Juda, David connaissait bien, et le Négev de Caleb, et nous avons mis le feu à Tsiklag. Où il n'aurait jamais dû dire ça, je pense, mais apparemment, ça a quand même passé. Moi, à sa place, j'aurais caché ça, mais bon. Je ne vais pas augmenter mes ennuis, parce que toute la colère de ces hommes aurait pu éclater, mais ils ont eu une certaine sagesse, et Dieu leur a donné cette sagesse, je pense. Et David aussi a cette sagesse. « Veux-tu me conduire vers cette troupe ?» Et il répondit simplement, « Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir. » Il était conscient des risques. « Et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te conduirai vers cette troupe. » Un esclave égyptien, malade, épuisé, affamé. Ça va être ça l'indice. C'est fou, hein ? Comment Dieu choisit ? C'est formidable. C'était comme une pancarte, voilà. L'ennemi est là-bas, vous pouvez y aller. Dieu avait un plan aussi pour ce pauvre homme. David est sage, puisqu'il ne il réagit pas quand il dit « Nous avons mis le feu à Tsiklag ». Mais David, lui, pense à sa mission. Où est-ce qu'ils sont? Je veux les récupérer. Il ne pense pas à la vengeance, là. Et vous savez, quand on ne pense pas à la vengeance, on est beaucoup plus efficace. Mais si on axe sur « Il m'a fait du mal, je vais me venger, ça ne va pas se passer comme ça », comme dit quelqu'un de mon village, « Moi, je ne pardonne pas. C'est une fierté. » Bah, ça ne rend pas la vie agréable. Hein. Mais quand on est axé sur sa mission et pas sur la vengeance, ça va beaucoup mieux. Symbolique aussi, quelqu'un m'a fait remarquer que l'Égypte a souvent eu un rôle dans les problèmes d'Israël pour sauver Joseph, Moïse, qui a été éduqué à la cour, Jésus, qui a fui en Égypte. Il y a une relation un peu ambivalente avec l'Égypte, je trouve, dans la Bible. Souvent, il est là pour aider. Parfois, Dieu se fâche contre l'Égypte. Mais il y a quelque chose avec l'Égypte, effectivement, qui est intéressant. Donc, l'esclave égyptien va être un bon guide et David et ses hommes vont attaquer. Alors, vous allez voir comment ils vont s'y prendre, là aussi. Il le conduisit donc. Les Amalécites s'étaient installés dans tout le pays, mangeant, buvant et faisant la fête. Inconscient, à cause de tout le butin qu'ils avaient pris dans le pays des Philistins et dans le pays de Juda. David les battit jusqu'à l'aube, on va s'arrêter là malheureusement, mais c'est le jusqu'à l'aube qui m'a inquiété. Ils avaient suffisamment de maîtrise de soi pour attendre. Parce qu'apparemment ils sont arrivés vers le soir et ils n'ont pas sauté sur les Amalécites. Parfois Dieu nous demande aussi d'attendre le bon moment, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Il y a des bons moments dans la vie. Et en tant que pasteur, on l'a souvent remarqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout de suite parce que ce n'est pas le moment. Il y a des choses où il faut attendre. Et c'est difficile parfois parce qu'on se dit, oh, il faut quand même attendre. Et ça, c'est dur. Surtout quand on pense qu'on fait bien et que c'est selon la volonté de Dieu. Mais je crois qu'il y avait un bon moment pour les attaquer. Et il y avait une logique, quand même. Dieu n'est pas ennemi de la logique. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient la fête. Dans quel état ils allaient être demain à l'aube? Ils étaient beaucoup moins efficaces. Eux aussi étaient dans une fausse sécurité. Il y a un moment pour faire les choses. Et que Dieu nous donne la grâce aussi dans notre vie, particulièrement avec nos adolescents. Ils sont tous cachés là derrière. Il y a un moment, comme ils n'écoutent pas, c'est parfait. Il y a un moment, non, je les embête, mais ils me connaissent, ça va. Il y a un moment pour leur parler parfois. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les enfants. Moi, sur les 3, oh là, je prends des risques là. J'en ai 2 qui peuvent, non, j'en ai 1, qui peut parler de n'importe quoi, n'importe quand. Entre 2 portes, ça ne pose pas de problème. Puis 2 pour lesquels il fallait trouver le bon moment. On est tous différents. Et je pense que demandons en tant que parents la sagesse du Seigneur. On n'en a jamais trop, vous savez. Pour faire les choses au bon moment. Avec nos enfants, avec nos collègues de travail, avec les patrons. Oh, avec les patrons, c'est terrible, là. Il faut choisir le bon moment. Il ne faut pas se ramener quand ils viennent perdre un contrat. Ouh ! Mais je pense que c'est des petites choses, mais qui peuvent tellement nous pourrir la vie. Demandons au Seigneur de faire les choses au bon moment. Voyez, la conduite du Seigneur, on en a besoin tous les jours, dans les bagarres de tous les jours. Demandons au Seigneur le bon moment et que le Seigneur nous vienne en aide. La vie n'est pas facile, c'est un combat. C'est ce que je déplore le plus quand j'arriverai au ciel. J'aurais tellement aimé, Seigneur, que tout soit facile. Sincèrement, j'aurais aimé. Et vous dire aujourd'hui, la vie est un combat, ça me coûte, parce que c'est vraiment pas dans mes principes personnels, charnels. Mais voilà, on en est là. Donc, appuyons-nous sur le Seigneur. Dans les cas de détresse, je sais qu'il y en a ici aujourd'hui qui sont dans des cas de détresse. Appuyons-nous sur le Seigneur. Demandons-lui, Seigneur, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand est-ce qu'on doit faire quelque chose? Quand est-ce qu'on doit se taire? Quand est-ce qu'on doit parler? Vous savez, il y a toutes ces questions. Seigneur, montre-moi. Seigneur, je te prie vraiment pour chacun d'entre nous qui avons devant nous des défis, des difficultés, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de famille, que ce soit dans des vies associatives, quelles qu'elles soient, le voisinage, nous te demandons ta grâce. Montre-nous, Seigneur, comment nous comporter. Que on ne fasse pas comme David quand il est allé chez les Philistins, mais qu'on puisse suivre l'exemple de David. Quand il, dans la détresse, il a couru vers toi. Il t'a consulté, tu lui as parlé et il a marché en obéissance à ta parole, même si c'était difficile. Merci Seigneur pour cette miséricorde que tu nous donnes aussi comme exemple envers ceux qui sont fatigués. Seigneur, merci de nous conduire dans la miséricorde aussi. Comme le dit ce verset, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la miséricorde. Que vraiment on puisse pratiquer cette miséricorde, que le monde appelle bienveillance. Seigneur, remplis-nous de toi pour qu'on puisse marcher comme David dans le texte d'aujourd'hui et pas comme David dans les textes précédents. Que vraiment, Seigneur, on puisse marcher avec toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Amen.